La petite cuillère.
Bonsoir, ce soir c'est une émission un peu spéciale de La Petite Cuillère parce qu'on s'est délocalisé des murs de Radio Canu. On est dans le café librairie Un Petit Noir où on va faire une soirée discussion autour de deux ouvrages qui traitent de la tôle. Le premier ouvrage c'est Beau comme une prison qui brûle et le deuxième À ceux qui se croient libres. Et je suis avec deux invités à qui je vais laisser la parole et à qui je vais laisser le soin de se présenter eux et elles-mêmes.
Bon, je vais commencer. Je m'appelle Nadia et j'ai écrit À ceux qui se croient libres. C'est une réédition puisque c'est un livre qui est déjà sorti en 2008 et qui a été réédité là parce que je trouve qu'il est tout à fait encore d'actualité. Je l'ai augmenté pour expliquer ce qui s'est passé depuis sa première publication. Et puis j'ai à l'intérieur du bouquin, il y a une chronologie aussi des luttes qui va du coup jusqu'à aujourd'hui. C'est un livre. Alors bon, moi, c'est clair, je suis pas arrivée à la prison par hasard. Il se trouve que mon frère a été en prison pour une peine, enfin pour des délits, pour braquage. Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce que pouvait être la prison à ce moment-là, et j'ai tout de suite essayé de rencontrer des groupes qui se battaient contre la prison et de voir comment on pouvait collectivement d'abord comprendre ce qu'était la prison, à qui elle servait et pourquoi elle existe. Ça me paraissait pas d'une évidence folle, et puis essayer de voir concrètement avec d'autres gens comment faire pour soutenir la lutte des prisonniers, dénoncer leurs conditions d'incarcération et s'interroger et continuer à s'interroger sur l'existence même de ces lieux. Donc j'ai rencontré des gens. À l'époque, on faisait une émission de radio. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai édité le bouquin. C'est parce que souvent on parle des luttes des années 70. Bon, il y a eu le CAP, il y a eu le JIP. C'était animé dans un premier temps par des intellectuels reconnus, connus, Foucault, etc., Sartre, etc., qu'on met souvent en avant, alors qu'il y avait des centaines de militants, des tas de gens, des lycéens, des ouvriers qui s'intéressaient à la prison. Mais on parle jamais des années 80. Et il se trouve que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la prison, dans les années 80, il y avait énormément de luttes à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une chronologie et aussi reprendre les textes qui sortaient à l'époque des prisons, des textes de revendication, des textes d'analyse, des textes de critique, pour montrer d'abord aux gens qui vont le lire que les prisonniers réfléchissent, oui, les prisonniers savent dans quel monde ils vivent et souvent ils savent pourquoi ils ont commis des délits. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant de lire ces textes-là. Et puis aussi pour essayer de comprendre d'abord quelle forme prenaient ces luttes, comment ils essayaient de s'organiser à l'intérieur, et comment nous, à l'extérieur, on essayait de les soutenir à l'époque. Puisque moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la radio. Parce qu'en fait, la radio, c'est un outil qui permet la communication avec l'intérieur sans passer par le filtre de la censure, puisqu'il faut savoir quand même qu'à l'intérieur, les prisonniers ne peuvent pas faire sortir de texte. Ils n'ont pas le droit à avoir une activité politique, ils n'ont pas le droit de faire des pétitions, ils n'ont pas le droit de dénoncer leurs conditions d'incarcération. C'est quelque chose qui peut leur coûter très très cher. Et donc, du coup, pour nous, à l'extérieur, c'était primordial de récupérer ces textes et de les faire circuler le plus largement possible, en sachant les risques qu'ils prenaient en les faisant sortir. Et puis il y avait des mutineries, il y avait des gens qui montaient sur des prisonniers qui montaient sur des toits, et des revendications extrêmement claires exprimées qui étaient à l'époque et qui sont toujours valables, puisque c'était déjà les revendications qui existaient dans les années 70. Elles ont continué dans les années 80. C'était la même, c'était la suppression des quartiers d'isolement. À l'époque c'était QHS, mais on y reviendra après parce que c'est une des deux autres raisons pour lesquelles j'ai voulu éditer ce livre. Suppression des quartiers d'isolement. Il y avait la suppression du mitard et du prétoire, qui est un tribunal interne. Il y avait les conditions de travail. Il y avait la possibilité normalement de se réunir, voire de syndiquer pour, dans certains cas, dénoncer la surexploitation du travail carcéral. Et si j'en oublie, les soins, mais pas tellement dans les... Enfin bon, à l'époque, il y avait, bon, en 94, la médecine est devenue publique, puisqu'avant, elle était, elle appartenait à la pénitentiaire. Bon, les soins, ça n'a pas changé. Hein. Il y a encore des prisonniers et les derniers mouvements qui ont eu lieu dernièrement étaient parfois pour dénoncer les conditions de soins désastreuses qui existent dans les prisons, voire qui entraînent la mort de certains prisonniers. Donc voilà, je voulais témoigner de ça parce que c'est resté très confidentiel. Il y a très peu de revues qui parlent de ça et pourtant il y avait vraiment quelque chose de très fort. Et peut-être ce qui me paraissait très fort aussi, c'est que les prisonniers n'ont pas cru dans l'arrivée du socialisme au pouvoir, eux. Ils n'y ont pas cru, ils ont tout de suite vu que ça n'allait pas être bon du tout, puisqu'ils ont tout de suite constaté que la suppression de la peine de mort entraînait l'allongement des peines. Dès les années 80, il y a des peines de... Les peines... Là,
Les peines de sûreté
qui viennent en remplacement, les peines deviennent de plus en plus longues, les prisonniers sentent qu'ils commencent à rester de plus en plus longtemps à l'intérieur, donc il y a aussi cette question d'aménagement des peines qu'on avait oublié tout à l'heure, l'aménagement des peines, l'allongement des peines, et puis les quartiers d'isolement, puisque ça faisait partie de ce qu'avait promis Mitterrand, n'est-ce pas, la suppression des QHS, et ils se sont rendus compte assez rapidement, mais Q pourrait en parler beaucoup mieux que moi puisque lui il était à l'intérieur. En fait, l'intérêt du fait qu'on soit tous les deux, c'est que moi j'étais à l'extérieur, je soutenais les luttes de prisonniers, et Q, il était à l'intérieur, il se battait comme un dingue. Donc du coup, donc on se connaît depuis longtemps, mais dans un premier temps par lettres, c'était les lettres qu'on lisait. J'avais pas vu sa tête depuis, j'ai peur, mais bon non, c'est pas vrai. Et donc du coup. Les QHS ont été soi-disant supprimés et quelques mois après, enfin d'ailleurs ils ont même pas été supprimés puisqu'ils ont juste changé de nom, puisque les socialistes étaient très forts pour changer les noms pour les mêmes choses, donc c'était devenu les quartiers d'isolement, et donc du coup il y a tout de suite eu des luttes de prisonniers pour demander la suppression des quartiers d'isolement effectifs, vraiment, et donc voilà, et donc toute cette agitation, toute cette réflexion, toutes ces luttes qui ont eu lieu dans les années 80, je trouvais que c'était important qu'elles existent, enfin qu'on puisse les lire, parce que souvent il y a les jeunes générations, bon ça fait quand même depuis les années 80, les socialistes nous ont bien cassé, hein, bien comme il faut, et du coup depuis cette époque, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et une dépolitisation, du chômage de masse, etc. Et donc du coup souvent les jeunes générations nous disent, mais qu'est-ce que vous avez foutu, mais qu'est-ce qui s'est passé, la mémoire se transmet pas, on sait pas ce qui s'est passé. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, hein. Il y en a d'autres, ils n'ont qu'à le faire sur d'autres terrains, que ce soit sur la question de la précarité, du chômage ou d'autres terrains. Il y a eu des luttes, savoir comment elles ont été récupérées, comment elles se sont cassées la gueule, c'est important aussi aujourd'hui pour voir comment on peut réagir et comment on peut se battre. Et si j'ai voulu aussi faire ce bouquin, c'était pour aussi le rééditer aussi, c'est parce que là on a eu encore les socialistes dernièrement au pouvoir, ils sont arrivés et tout, il y en a même qui ont cru. Bon, pour nous, hein, on n'y a pas cru deux secondes, hein. on était déjà au courant, donc c'est bon. Et donc c'était intéressant aussi de à travers ce bouquin de montrer la supercherie de l'arrivée des socialistes au pouvoir, que ce soit en 81 ou même dernièrement encore avec Hollande, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont crié au laxisme de la loi Taubira, qu'elle allait mettre tous les délinquants dehors. Bon, faut arrêter. Les peines sont de plus en plus longues depuis la fin des années 70. On incarcère de plus en plus. Puisque les gens restent de plus en plus longtemps, il y a de plus en plus de prisonniers. Il y a des délits qui sont apparus. Dans les années 70, une peine maximum, elle était autour de 15 ans. Aujourd'hui, putain, on va vers 30, 35. Enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Alors, le laxisme, je sais pas où il est, quoi. Mais là, je crois qu'on se fout vraiment, vraiment de notre gueule. Et que les socialistes n'ont guère fait mieux que Sarkozy. Hein, ils ont continué dans la même lancée, et ça aussi j'avais envie de pouvoir en rediscuter aussi dans la présentation de ce bouquin. Sans ça, le bouquin c'est le parcours d'un mec C'est le parcours d'un homme qui s'appelle Thierry Chadbi, qui est un homme que Q a beaucoup connu, puisque c'était un camarade à lui. Il faisait partie des gens qui se sont battus pendant 10 ans contre les prisons, jusqu'à temps qu'on les enferme dans des quartiers d'isolement pendant des années et des années. Et qui ont dénoncé, qui ont écrit, qui se sont battus, qui sont montés sur les toits, etc. Et lui, il a vachement écrit. Et il était un peu, comment dire, c'est quelqu'un qui n'avait pas été à l'école, donc il a une manière d'écrire vraiment très 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 forte. Vraiment, les mots comptent, chaque mot compte. On n'est pas là pour s'embrouiller, pour tourner autour du pot, on est là pour y aller direct. Et donc ces mots, ils sont très très forts. Et du coup, je me disais qu'à travers ces mots, pour des gens qui connaissent pas la prison, c'était un moyen de l'aborder, de l'approcher, de la en tous les cas d'essayer de voir ce que ça pouvait être. Et je tenais à ce que ce soit un prisonnier, on dit de droit commun, social, moi je dis politique, un prisonnier qui est rentré pour braquage, un petit délinquant, un mec qui est passé par les maisons de correction, après qui a été en maison d'arrêt, puis qui a fini en centrale, comme pas mal de jeunes qui sont passés par les maisons de correction. Ce livre parle aussi de l'enfermement des mineurs. C'est une vraie, c'est vraiment un vrai problème. Là aujourd'hui, on va vers encore plus de répression vis-à-vis des mineurs, puisque aujourd'hui, maintenant, en France, on peut incarcérer à partir de 13 ans. Vraiment, quelle avancée! Et on se rend compte que plus on incarcère jeunes les mômes, et plus ils finissent leur vie en tôle, quoi. C'est quelque chose que tout le monde sait. Et pourtant, on continue à faire toujours les mêmes conneries. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà. À partir de ce parcours, de cet homme qui arrive avec grande lucidité à parler à la fois du monde dans lequel il a vécu, de ses rêves, de ses combats. Voilà, je trouvais que c'était une manière intéressante, importante de parler de la prison. Je vais laisser la place à Q.
Bon, bonsoir, donc moi c'est Q. Alors, comme l'a dit Nadia, je crois que je suis un petit peu l'objet du livre, ou des livres, je ne sais pas. Comment je vais me présenter? Je suis issu de la délinquance classique qui commence très jeune, donc qui au départ ne choisit pas, et puis après se retrouve effectivement dans ce que disait Nadia, ces premiers structures d'enfermement qui sont soit des centres fermés pour jeunes, soit des centres de redressement, enfin peu importe comment on les appelle, c'est des centres fermés qui peu à peu conduisent à la prison. Donc je passe assez vite à la grande délinquance et j'arrive dans un contexte où donc la gauche vient de passer au pouvoir, le chômage commence à prendre beaucoup d'effets, on incarcère de plus en plus. En quelques années, il y a 40% de détenus en plus et les peines commencent à augmenter. Moi j'arrive dedans. Et pour des braquages, je prends donc 15 ans, une peine qui à l'époque était assez sévère parce que la peine maximum étant de 20 ans, donc à l'époque c'était avant donc la peine de 30 ans qui est applicable aujourd'hui. Donc j'ai 23 ans, je suis jeune, 15 ans, je trouve que c'est cher pour 3,50 francs que je vous ai pris dans les banques, bon ça va quoi. Donc j'ai envie de m'évader. Et mon seul truc c'est ça, c'est que je vais m'évader. Je suis pas très politisé dans ma tête, je suis un voyou lambda quoi. Et j'ai déjà fait de la prison pour en tant que mineur, déjà assez lourdement, mais j'ai toujours pas l'idée... politique de la prison, pour moi, c'est juste un monde où on vit comme ça, on sort des centres, on s'en évade, on y remet. Donc j'ai pas une pensée globale comme Nadia pouvait l'avoir à cette époque, mais c'est sur ces entrefaites que je la rencontre, parce que d'instinct je me rebelle et d'instinct je ne veux pas subir ce que la prison veut imposer, une sorte d'humiliation totale où quand on est à plat ventre, à ce moment-là ils considèrent qu'on est un bon détenu, un truc que je pouvais pas supporter. Donc moi mon combat c'est d'abord de vouloir m'évader, et puis si je peux pas, ben ça va coûter cher de me garder. Donc je suis toujours en rapport de force avec la pénitentiaire jusqu'au moment où beaucoup de détenus comme moi comprennent que nous les peines sont, il va falloir les faire, elles sont très longues. C'est un petit peu aussi après l'époque où Badinter se faisait traiter de laxiste, on l'a senti passer, les peines sont montées de 40% en quelques années, donc très très vite, beaucoup plus que ça ne s'était fait en 40 ans auparavant. Avant il y avait 30 000 détenus sous les années 70, dans les années 80 il y a déjà 50 000 détenus, et on commence à parler de surpopulation, comme le disait Foucault, en bas il y avait surenfermement. Donc on commence à lancer cette course à la prison, à la construction des prisons. Moi, à l'époque dont je suis dedans, c'est là qu'on voit apparaître Badinter qui nous dit « il y a surpopulation ». Il se trouve que quand il vient nous dire ça, J'étais dans le mouvement où ça s'est passé à Fleury, j'étais là. Donc je connais tous les gens qui ont participé, et on était tous ce qu'on appelle des PS, donc détenus particulièrement signalés, donc tous seuls en cellule. La surpopulation, on ne connaissait pas. Jamais on a été à deux en cellule, on était tous seuls en cellule. Donc c'est un mot qui n'a jamais franchi nos lèvres. On avait d'autres revendications qui, elles, n'ont pas été exprimées par les médias, mais celles que les médias ont reprises, c'est la déclaration de Badinter qui, venant devant Fleury-Mérogis, dit « Il y a une surpopulation à Fleury, il faut construire le plan 13 000 ». Je vais faire un raccourci, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, il commence à dire qu'il faut des places de prison. Et depuis, on court à ces places de prison, toujours de plus en plus, dans un partenariat public-privé qui rapporte beaucoup à certains entrepreneurs et aujourd'hui à certains exploiteurs de prison, puisque c'est devenu un marché, que Thalès, d'ailleurs, va bientôt saisir. Non, je crois que c'est pour les bracelets électroniques, lui. Mais bon, Sodexo, c'est des grosses boîtes comme ça, saisissent un marché. Donc, pourquoi je dis ça pour dire qu'à partir de ces années 80, on a vraiment dépolitisé la prison, on a considéré que ça devenait un instrument de gestion de la délinquance, de la misère, et un instrument qui fera peur aussi. Alors, comment il fera peur ? Parce qu'on a rouvert ce qui a démontré, ce qui 40 ans avant avait été démontré comme une erreur, c'est-à-dire les QHS, les prisons pour les enfants. Par exemple, Nadia parlait de ces trucs d'enfermement où Thierry était passé, on est passé à peu près par les mêmes. Il se trouve que un centre qui s'appelait Juvisy a eu 800 personnes qui sont passées parmi en quelques années, parce que c'est des petites structures. Donc il y a eu 800 jeunes qui sont passés dedans. Ils ont eu 100% de récidivistes. 100%. C'est un chiffre qui parle quand même. 40 ans plus tard, on ouvre les prisons encore pour jeunes, où ils auront encore 100% de... Ils le savent. Donc c'est plus une question d'idéologie. Est-ce qu'on va réinsérer? Est-ce que la prison réinsère? S'en fout, ils savent très bien que la prison ne réinsère pas. La prison n'est pas faite pour ça, d'ailleurs. Elle est faite pour briser tout individu et faire peur à ceux qui n'y vont pas. Mais elle n'est jamais été faite pour réinsérer. Donc on remet au goût du jour les méthodes qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un principe où il va falloir contrôler de plus en plus de gens qui ne sont pas dans le... Ils ne vont pas consommer, mais ils veulent quand même les iPhones. Donc ils vont les arracher. Et on va créer une petite délinquance qui va être de plus en plus nombreuse, comme dans les années 80, elle est augmentée à travers le chômage. C'est à 50 000, puis 60 000, aujourd'hui on a 66 000, et il y en aura de plus en plus parce qu'il y aura de plus en plus de pauvres. Donc la prison est devenue un mode de gestion. Moi, ça, je commence à le comprendre quand j'ai 25 ans, 26 ans, parce que je commence à lire, à vouloir m'instruire un petit peu, et je suis toujours dans mon délire, je veux m'évader. Donc je passe d'une tôle à l'autre. Et je passe de Fleury, truc. Et ce bouquin, ça se passe en 88, alors que je suis rentré en 80 en prison. Donc ça fait 8 ans que je traîne dans les prisons à vouloir m'évader. Et j'y arrive pas. C'est pas le problème. Donc, parce que c'est pas simple. Et s'évader. Moi, j'ai pas de gens qui vont venir me chercher en hélicoptère. Donc j'ai mes petits moyens. Donc il faut que je passe d'une prison à l'autre pour essayer de trouver un trou. Si la prison ne me plaît pas, je me fais virer. Et pour me faire virer, je monte des mouvements. Dans un premier temps, c'est vraiment l'idée seulement de changer de prison qui me fait. Mais peu à peu, je commence à prendre conscience que ce que réclament mes co-détenus, finalement, ils ont raison. En vrai, je m'en fous, moi, tout ça. Savoir s'il y a des rideaux aux fenêtres, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que la fenêtre, il n'y ait pas de barreaux. Donc, j'en ai rien à foutre. En vrai, toutes les revendications pour lesquelles je me suis battu, je les ai pas utilisées, je m'en fous complètement. Mais je commence à comprendre que dans le combat, on commence à gagner quelque chose. C'est-à-dire que dans le combat, je me rends compte que on est plusieurs, on est nombreux, et dans les années 80, on pèse sur la décision. C'est-à-dire que quand on se met en mouvement, on est capable de faire changer d'avis la pénitentiaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On a une force qui se manifeste et qui est relayée à travers les radios à ce moment-là. Donc, le temps passe comme ça, je deviens ce que la pénitentiaire appelle un détenu rebelle, et je le reconnais assez difficile pour eux. Et le bouquin raconte un peu ça. Vous avez vu Prison Break ? Vous avez les deux épisodes en un. Une tentative d'évasion et une révolte à l'intérieur d'une prison. Pourquoi ? Parce que j'arrive dans une prison un peu particulière dans l'univers carcéral, qui est une sixième, qui est une centrale, où la pénitentiaire ramène tous les homosexuels qu'elle trouve un peu à droite, à gauche. Alors, pour éteindre la question tout de suite, en prison, on n'est pas plus d'homosexuels qu'à l'extérieur. Vous avez 10-15%, c'est à peu près la même norme. Tout le reste, c'est du fantasme. C'est la sexualité, ça s'arrête à la masturbation. Tout le reste, c'est du fantasme de la société civile qui n'y est. Mais sinon, c'est très très mal vu à l'intérieur. Mais bon, Anne-Sixième, c'est une prison un peu spéciale. Donc, on y envoie tous les homosexuels et aussi tous les emmerdeurs qui font chier, comme ça, ça va. Ça va. Donc, il y a une quarantaine de gens comme ça qui tournent de temps en temps. Moi, après une, je sais plus trop quoi, je crois, je sais plus ce que j'avais fait. En tout cas, je me fais virer d'une tôle. Et j'arrive donc à Anne-Sixième. Et je rencontre deux amis à moi qui me disent, d'ici, on peut partir. Alors, le contexte de la prison, pour vous dire, sur 240 détenus, il y avait 180 homosexuels recensés. Ce qui n'arrive jamais dans les prisons. Hein. Sur 300 détenus, vous avez 20 détenus recensés homosexuels. Peut-être qu'il y en a encore 10 qui sont passés à travers. Mais c'est à peu près la norme de la société normale, quoi, toi. Parce que ça crée un climat différent, parce que normalement, c'est assez peu toléré. Les détenus sont très, très peu tolérants. Donc, comme c'est peut tolérer, c'est caché, sauf à une sixième où ne s'est pas caché. Ça crée une sorte de climat dont je parle assez peu, parce qu'en vrai, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et donc, je décris cette tentative d'évasion dans une structure où N6M, c'est une ancienne, je sais pas trop quoi, qui a des murs classés historiques qu'on peut pas bouger. Donc, pour une prison, c'est un peu chiant, on peut pas leur ajouter trop de barbelés, détruire Madi Mirador. Nous, ça nous laisse des ouvertures. Et La première partie du livre décrit cette évasion, qui est une évasion à l'ancienne, sans violence. On essaye de construire les clés, on essaye de passer les portes, on creuse le trou, etc. Et puis bon, comme ça rate, on se retrouve au mitard. Et à partir du mitard, il y a une répression derrière. Il y a la répression de la pénitentiaire, pas seulement sur nous, mais aussi sur l'ensemble de la prison. Ils viennent et ils font une fouille générale. Ils cassent un petit peu tous les petits objets habituels. Parce que les gens, ils sont là pour 10 ans, 15 ans. Eux, ils restent. Moi, je tournais. Je suis jamais resté plus d'un an dans une prison. Mais eux, ils restent 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans même. Donc, ils sont installés. Ils l'ont tout cassé. Donc, ils m'ont créé, en vrai, un bon terreau pour la révolte. Parce que, en quoi j'étais un emmerdeur, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de casser une prison. Parce que quand j'étais à Fleury, j'étais au bâtiment des deux. Et la révolte la plus violente, elle s'est passée au bâtiment des quatre. Et c'était mes potes qui étaient là-bas, donc j'étais un peu jaloux quand même. Donc je me suis dit, merde, j'ai raté ça, je voudrais bien avoir la mienne. Et quand on rate l'évasion, c'est-à-dire que du mitard, on se dit, bon, on va réessayer de partir, mais à la sauvage. On prend les matons en otage, on les attache, on prend leurs clés, on passe par les ateliers, là-bas ils construisent des échelles, on dit, tiens, on va essayer de passer. Donc on va prendre des échelles. On sait que c'est un petit peu à l'aventure, on sait que ça va pas passer, mais bon, on essaye. Et comme ça passe pas, mes potes, ils me disent, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là où je prends la décision de dire, on casse la prison. Et non, j'ai dit, on s'empare de la prison. Ils sont pas plus motivés que ça, mais ils s'en foutent. Ils sont deux jusqu'au boutistes comme moi, donc allez, et on part. Et donc la deuxième partie raconte la révolte. Et là, j'ai été assez frappé par le changement radical des prisonniers. Un monde qui... Parce que bon, on a très vite fait fuir les matons, donc la prison est à nous. Mais bon, moi, l'ordre, c'est pas mon truc. Donc je dis, quand on me demande ce que vous faites, bah faites ce que vous voulez. Donc ça dégénère très vite. Ça part dans tous les sens. Le bouquin raconte un peu ça. On voit des gens changer. Mais en très peu de temps, ça a duré 24 heures. Parce que tout autour de nous, il y a... la police, le ministère, les médias, les paysans qui disent « Laissez-les brûler !» Ils criaient « Laissez-les mourir, les pédalisés !» Bon, une bonne réputation dans le coin. Et donc il y a tous ces gens-là autour, parce que nous, on est aussi sur les toits. On voit tout autour, tout ce qui se passe. Il y a plein de police. Et pour expliquer le titre du livre, c'est à ce moment-là que moi, où je fais partie des cinq meneurs, parce qu'après on en a récupéré deux dans le mitard qui sont venus avec nous. Donc on est cinq à être considérés comme les meneurs, parce qu'il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable du truc, parce que sinon qui c'est qui va payer? Mais le terreau, c'est pas moi qui l'ai construit, c'est la pénitentiaire. Moi j'ai allumé l'étincelle. On est parti, on a fait fuir les matons. Et c'est parti comme une traînée de poudre. Mais le terreau, c'est pas moi qui l'ai allumé. C'est la pénitentiaire qui a créé tout son système, qui a fait que les mecs, ils en ont marre. Et quand ça a explosé, j'ai vu des gens, mais qui étaient des détenus modèles, qui étaient des exemples de soumission, se lâcher, mais d'une force, des retournements de psychologie incroyables. C'est une expérience intéressante. et que je regrette pas du tout. J'ai pris 4 ans, mais bon, je m'en fous, je regrette pas du tout. Et durant ce laps de temps, alors que tout brûlait autour de nous, qu'on était totalement enfermés autour de gendarmes, de... Là, c'est-à-dire que nous, on a la prison à l'intérieur, mais tout à l'extérieur, on ne pouvait pas sortir, forcément. C'est à ce moment-là que moi, je me suis senti le plus libre. C'est-à-dire que la réponse, depuis des années que j'arrivais à pas sortir et tout, la réponse, je venais de la donner. C'est-à-dire que tu veux pas me lâcher, ça va te coûter très cher, les prisons, je vais les détruire. Il n'y a qu'une façon de lutter contre la prison, c'est de la brûler, en vrai. Et quand j'étais au milieu de cette cour où ça brûlait de tous les côtés, je trouvais ça assez beau. Et on était en train de boire le thé, il y avait les GIGN qui nous attendaient pour discuter, parce qu'on était en négociation, et on décide de les laisser attendre, et on prend le thé. Et on est tous les cinq attablés comme ça, une sorte de moment de silence, un petit peu. Bon, ça fait beaucoup de bruit, parce qu'il y avait un hélicoptère qui tournait, donc ça faisait des flamèches comme ça, tu vois, ça faisait assez joli. Et je regardais, je dis, c'est beau une prison qui brûle. Mais j'étais sincère quand je disais ça. Et du coup, cette phrase que j'ai écrite par la suite, parce que le bouquin a été écrit un petit peu plus tard, j'ai écrit dans des courriers, est devenue une locution, comme ça, un octosyllabe. C'est devenu une locution reprise par des radios, par des mouvements, par des journaux. Donc j'ai repris le titre parce que, bon, en gros, il m'appartenait quelque part. C'est même le titre aussi d'un autre livre de Julien Vandamme, je crois. Vandal, ouais. Mais qui parle d'autre chose, enfin, une révolte de 1789, quoi. Et ça explique un petit peu le titre du livre, ce moment où, alors que je suis entouré de chaînes, je suis entouré de fer, je suis entouré de béton et de police tout partout, où je me suis senti vraiment le plus libre. Alors je vous dis de suite, derrière, c'est vrai qu'ils ont allumé, j'ai beaucoup morflé, mais bon, ça fait partie du jeu. Après, c'est... je faisais partie d'une sorte de club que la pénitentiaire nous appelait les rebelles. Ils disaient, il y a 500 rebelles en France qui entraînent derrière eux 5000 personnes pour foutre la merde. Ces 500 personnes, ce sont celles qui existent encore aujourd'hui. Ne croyez pas qu'elles ont disparu. Seulement, nous, on avait encore les moyens de s'exprimer un peu. Aujourd'hui, ils sont enfermés sous des blocs de béton avec des irises par-dessus. Ils ne peuvent plus s'exprimer. Alors, comment ils s'expriment? De temps en temps, ça sort. Nous, on arrivait à monter des mouvements collectifs, parce qu'on était des fois en dehors des quartiers d'isolement. Aujourd'hui, ils n'en sortent plus. Comment ils peuvent exprimer leur colère, leur revendication? Des fois, simplement pour un simple rapprochement familial. Ben, ça se passe, comme la presse le décrit, par des prises d'otages sauvages. C'est-à-dire que le mec, tout d'un coup, il prend un bâton en otage, il prend le directeur, il prend le médecin, le psychiatre, n'importe quel qui lui tombe sous la main, il dit, il en a marre. Maintenant, je veux discuter, et je veux voir le proc, je veux voir ceci, cela. Il pense à un moment que ça va lui apporter quelque chose. Malheureusement, non. Il va prendre 7 ans, 8 ans, parce que les peines, elles ont été énormes maintenant. Aujourd'hui, quelqu'un, un détenu qui prend un maton en otage, il prend 8 ans ferme. Regardez, nous, on a pris 4 ans, on a détruit complètement la tôle. Elle était HS. Je crois qu'il y a eu plus de 80 millions de dégâts ou un truc de genre-là. Donc c'était énorme. Il y avait des matons, on en a pris 5. On les a tous attachés. On a fait un truc qui était beaucoup plus gros que ce que faisait aujourd'hui. Et nous, on prend 4 ans. Alors que les gens de 71 qui avaient aussi détruit la prison de Toul, eux, ils avaient pris 6 mois.
Nancy, ouais.
6 mois à Nancy. Mm-hmm. Et on considérait que c'était une grosse peine déjà. Ils avaient pris une grosse peine. Nous, on a pris 4 ans. C'était dans les années 88. Aujourd'hui, ils prennent 8 ans parce qu'ils ont pris un maton en otage. Sans plus de violence que ça. Hein. C'est-à-dire, ils ont un couteau, ils disent tu bouges pas. À partir de là, tout se met en place. On bloque les portes. Plus personne ne les approche. Ils n'ont pas besoin de lui mettre le couteau sous la gorge pendant 15 heures. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les iris se mettent en place, le GIGN, on discute et tout, etc. Et à un moment, quand ils en ont marre, ils disent, bon, allez, attends, on rentre. Et ils l'attrapent, ils le jettent au mitard, ils le ruinent, et ils se prennent 8 ans ferme. On ne peut pas dire qu'en vrai, il y a eu des dégâts énormes. Allez, au pire, ils ont fui, ils ont brûlé un bureau, quoi. Pour dire comment les peines n'ont pas augmenté, quelle est la réponse de l'État à chaque fois. Alors, moi, j'ai eu la chance, c'était une autre période. Période où j'ai pu connaître Nadia, effectivement, à travers les radios, mais où, peu à peu, j'ai pris conscience de qui était là, parce que, bon, autour de moi, c'est un laboratoire social intéressant, la prison. Il y a vous y voyez un petit peu ce qui se passe, parce que, contrairement à ce que vous croyez, dans les centrales, ce sont pas des voyous qui dans les centrales. Il y a 15-20% de voyous. La plupart du temps, dans les centrales, et dans les CD, souvent aussi, beaucoup, ce sont des gens, ben, un peu comme vous. Mais sauf qu'eux, ils ont pété les plombs. Ils ont tué leurs voisins, ils ont tué leurs femmes, ils ont violé leurs gosses. Ils ont fait des trucs que les voyous font pas d'ordinaire. Donc la grande délinquance dans les centrales, on prend plus que la petite délinquance. La petite délinquance, elle est majoritaire dans les maisons d'arrêt. Mais c'est une petite délinquance que de toute façon, qui se renouvelle constamment, puisque ce sont des petites peines. Qu'ils soient dedans ou dehors, en vrai, ça a peu d'importance. Ce que... Bah, c'est sûr.
Non, mais ça a une importance pour eux, quoi. Eux, ça les casse tout juste, quoi.
Mais pour la société, ça change pas le niveau de délinquance de la société. En fait, ça change rien. Pour les grands crimes, pour donc tout ce qui est passé aux assises, tout ce qui a pris des peines de plus de 5 ans, sont dans les CD ou dans les centrales. Moi, je vois, je connais les CD et les centrales. Même si on ne voit que les voyous à l'intérieur, c'est parce qu'eux, ils sortent des cellules. Mais les autres, à l'intérieur, ils sortent pas, mais ils sont à 80%. Ce sont les accidentés de la vie. Moi, j'appelle ça les accidentés de la vie. Des gens normaux, quoi. Sauf qu'à un moment, ils ont pété les plombs. Pour une raison ou pour une autre. Donc, les centrales, faut différencier déjà. Les gens qui sont pour des longues peines, ça concerne quoi 8, 10 000 détenus en France. Les 66 000 détenus, c'est des très petites peines, des courtes peines, qui sont souvent là pour des histoires de rébellion, quand c'est des histoires de cité, ils se prennent cher, ils se prennent des 2 piges. 2 enfermes parce que bon, le contrôle au faciès, il a mal tourné, les papiers, il les a pas, ou alors il a une boulette de shit. Le flic, il s'est tordu le bras quand il l'a coincé par terre. Voilà, c'est un enfer. C'est systématique, ça arrondit les fins de mois du policier et ça envoie le petit délinquant en prison. Pour pas grand-chose. Aujourd'hui, avec les nouvelles lois, ça va être encore pire. Pour dire que les gens, ils devraient effectivement regarder ce qui se passe à l'intérieur pour savoir ce qui va se passer à l'extérieur. Souvent, ça fonctionne comme ça. Je dis pas que la prison est un laboratoire social, mais je dis que tout ce qui est répression s'expérimente un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, on commence à le sortir à l'extérieur. À le généraliser un petit peu plus tard. Et ce qui se passe à l'intérieur actuellement, c'est très très dur pour les mecs. Moi, j'ai des contacts avec des gens d'intérieur. Bon, vu ma personnalité, ce sont aussi des rebelles, mes potes. Et ils sont dans les quartiers d'isolement. Et croyez-moi, ils morflent. Quand ils me disent c'est Guantanamo, alors on n'a pas la torture. C'est pas la torture organisée, mais c'est les transferts avec des cagoules sur la tête. On ne sait pas où on va. Ils se font défoncer systématiquement parce que forcément, il y a un accrochage. L'autre, il va mal te parler, tu vas répondre. Ou alors, tu te couches. Et comme pour eux, il n'en est pas question. Donc, ça finit mal. Forcément, ils se font défoncer. Alors, il y a les gazeuses, les tasers. Toute action qui se fera peu à peu dans la rue. Hein. Aujourd'hui, les gens qui se plaignent parce que la police intervient, on les gaze. Hein. On le voit partout maintenant.
On les interpelle aussi.
On les interpelle. Taisez-vous, faites ce... Et ça sort à l'extérieur. C'est en cela où je dis, parfois, ce qui se passe à l'intérieur... Et une chose qui va se passer à l'extérieur, quoi.
Et qu'est-ce que c'est exactement la vie quotidienne au quartier d'isolement où QHS, avant tu peux nous raconter un peu concrètement par rapport à la détention normale?
Le principe de l'isolement, c'est 1 heure de promenade par jour. Donc c'est la loi qui oblige ça, c'est 1 heure de promenade par jour, le reste c'est pas obligatoire. Donc c'est en fonction du quartier d'isolement. Alors, à partir de là, le directeur, il a tous les droits. Soit il met qu'1 heure de promenade par jour, ou soit... Il veut que son quartier il soit un peu différent en fonction des gens qui y sont. Et comme à Bois d'Arcy, à une certaine époque, il mettait deux isolés en promenade ensemble. Donc, et il accordait 2 promenades. Mais ça, c'est discrétionnaire du directeur. Il fait comme il veut. Il y a des périodes et des quartiers. En fonction, c'est une bonne gestion du personnel. En fonction du détenu, on l'envoie dans tel ou tel quartier. Il ne faut pas confondre l'isolement, par exemple, sur demande de gens qui ne veulent pas rencontrer d'autres détenus dans la détention, qui ont un régime... Ils sont à l'isolement, mais ils ont un régime particulier qui fait qu'ils ne sont pas vraiment à l'isolement. Quand l'isolement se met en place pour un rebelle, il est très hard, très dur. C'est 1 heure de promenade par jour, point à la ligne. Il n'y a pas de promenade, c'est des parloirs aïaphones. Pour raison de sécurité, il n'y a pas besoin d'avoir fait quelque chose. C'est les changements de cellules toutes les semaines, dans la même aile, mais 3 cellules différentes. C'est les réveils le soir, la nuit. Les copier dans la porte, soi-disant pour vérifier que le détenu est là, faut qu'il bouge. Donc tout ça, c'est un système qui fait que, au bout de quelques mois, les mecs ils craquent. Moi, j'ai vu beaucoup de gens craquer dans les.
C'est la solitude, hein, 24 heures sur 24, hein, c'est être seul en cellule, même si t'as le droit d'aller dans une promenade, t'es souvent seul. Et on est des êtres sociaux, on a besoin, hein, on a besoin des autres pour pouvoir vivre. Et là, on est enfermé seul avec soi-même 24 heures sur 24 pendant des mois, voire des années. Je veux dire, combien il y a de personnes qui se sont tapées des 5 ans d'affilée, quoi.
C'est clair.
Essayons d'imaginer même nous, quoi, enfermés dans un cube de béton pendant 5 ans. Je veux dire, c'est tout simplement impossible. Donc, où les gens deviennent fous, où ils développent, des choses pour arriver à s'en sortir, mais c'est super dur. Et moi, je vois, bon, moi, en tant que famille, de ce que j'ai pu voir vis-à-vis de mon frère, je veux dire, il était tout blanc, il avait les yeux creusés, il avait du mal à trouver ses mots. Enfin, c'est tout ça, les quartiers d'isolement. Ça rend les gens... Ce qui est le cas de you, ce qui est le cas aussi de tas de copains. Mais c'est aussi parce que souvent, il y a des familles derrière, il y a des copains derrière, il y a des gens qui sont en capacité aussi de lire des livres ou d'en profiter pour s'instruire, essayer de se construire malgré tout, quoi, malgré toute l'administration pénitentiaire, mais pour combien qui sombre. C'est une vraie torture, c'est une vraie torture blanche. Et le truc qui est fou, c'est que en l'abolissant en 81, je veux dire, il y avait des raisons, il y a eu une campagne à cette époque-là contre cette réalité-là, parce que ça faisait pas partie, parce qu'on le considérait comme une forme de torture. Et depuis, il a été réinstallé, et non seulement il a été réinstallé, mais il s'est généralisé. Je veux dire que là, on est sur chaque prison qui se construit, un quartier d'isolement qui va avec. Et puis là, depuis quelques années, ils ont mis en place des QMC, des prisons de haute sécurité. Je veux dire, c'est un délire, c'est un truc. Je veux dire, le mouvement avait fait que l'intelligence humaine avait compris qu'on ne pouvait pas maintenir enfermés des êtres humains dans ces conditions-là. Et là, on est en train de remettre en place ces systèmes-là de destruction. Dire comment ça s'appelle, parce qu'à chaque fois on se plante.
Sur la résistance.
Non. Sur le nom Condé-sur-Sarthe. Oui, Condé-sur-Sarthe. Et Vendin-le-Vieil, ces deux prisons de haute sécurité qui ont été, inaugurées par Madame Taubira, n'est-ce pas, cette grande laxiste connue. Où il y a des êtres humains là qui sont enfermés dedans et on s'étonne qu'ils vont péter les plombs. On s'étonne.
Mais quelle
autre possibilité ils ont ? Vas-y.
Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que ça soit à Condé-sur-Sarthe
ou à Vendin-le-Vieil,
on pourrait imaginer que dans ces prisons de haute sécurité, il y ait des grands criminels comme Fourmiret, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ceux qui sont à Condé-sur-Sarthe, il y a Christophe, par exemple, Christophe Hivert, que tout le monde connaît, les Vanet Moulins. Il y a, comme il dit, il y a les rebelles.
Les rebelles.
Et les prisons.
Ceux qui s'évadent.
De Condé-sur-Sarthe, c'est fait uniquement pour les DPS. Et on est DPS parce qu'on s'est rebellé contre les matons ou contre la torture de la pénitentiaire. Et c'est uniquement pour ça qu'il y a des QHS qui sont aujourd'hui revenus en activité de manière... voilà.
Et je voulais aussi rajouter une chose, c'est le fait dans cette façon d'isoler les gens, de séparer, de les séparer les uns des autres et de leur. Il y a aussi ce nouveau système qui fait qu'il y a des échelons. Et qu'en fonction de la dangerosité supposée des prisonniers, parce qu'on parle de quoi là, de quelle dangerosité, on vient de l'avoir, c'est souvent des gens qui refusent un état de fait qui les détruit et qui savent que c'est destructeur. Et donc il y a plusieurs niveaux. Alors quand on est hyper sympa, ce qu'on dit rien du tout, qu'on se laisse faire, etc. Et souvent c'est à perte. Hein. Enfin je veux dire, ça peut être très dommageable psychologiquement pour les prisonniers. On a le droit d'aller dans les couloirs le matin, l'après-midi. Bon. Alors, quand on est quand même un petit peu plus chiant, on a le droit juste le matin ou l'après-midi. Quand on fait vraiment chier, on est enfermé toute la journée, donc on est quand même pas loin d'être dans un système d'isolement, voire de système de maison d'arrêt pour des gens qui sont sur des peines qui vont jusqu'à 10, 15, 20 ans. Donc, on est vraiment dans un gros délire. Et puis, pour ceux, alors là, vraiment, qui ont rien compris, mais vraiment, il y a le QMC. Donc là, on voit qu'il y a tout un tas de systèmes qui, en fonction du comportement, n'ont pas des faits. C'est-à-dire, on n'est pas là sur les faits qui ont été commis, on est sur un comportement, ce qui est quand même vraiment incroyable, avec une observation qui est faite sur chaque prisonnier, sur ses fréquentations, comment il va, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il machin, qu'est-ce qu'il bidule, pour bien voir un peu qui est cette personne, pour en fonction le mettre dans des établissements, des ailes, des étages correspondant à... Je veux dire, c'est incroyable. Alors, c'est une récession, mais une régression, je veux dire, incroyable.
Ce parcours que décrit Nadia, il a été formalisé dans un mot que je trouve assez significatif. Ça s'appelle le parcours de désistance. Le contraire de résistance. C'est-à-dire qu'il faut que les détenus fassent preuve de désistance. Et la désistance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut renoncer à sa personnalité. Et ce parcours, il est accompagné de psychologues, de psychiatres, qui disent il faut que tu suives une thérapie parce que t'as commis tel ou tel délit, ou ta personnalité de rebelle fait que tu es pas normal. Donc, tu dois suivre une thérapie jusqu'à ta désistance totale. À ce moment-là, on peut envisager pour toi une sortie. Donc, il y a des gens pour qui ça marche pas. Alors, ces gens-là, il va falloir les gérer. D'où l'intérêt de Condé-sur-Sarthe et de
Vendin-le-Vieil.
Des grands QHS pour gérer ces gens-là qui seront de plus en plus nombreux parce que les peines de plus en plus lourdes. Les peines lourdes, elles ne sont pas forcément prononcées par les jurés aussi. C'est une chose qu'il faut savoir. C'est que les peines de 30 ans, depuis que la peine de 30 ans elle est apparue, le procureur peut coller 30 ans à peu près à qui il veut. C'est-à-dire que s'il veut, il prend un ensemble de faits, il saucissonne un peu l'affaire, il donne une partie à un juge, une partie à un autre. À la fin, le mec, il passe deux fois aux assises, une fois en correctionnel. Alors, je vous décris carrément mon cas, en vrai, hein, parce que ils m'ont fait passer deux fois. Ils voulaient même me faire passer une semaine un procès, la semaine suivante un autre procès. Bon, la présidente, elle a cassé tout ça, mais en fait, le but, c'était ça, c'est de nous faire passer plusieurs procès. On avait déjà passé deux procès au correctionnel pour associer le malfaiteur, c'est-à-dire l'organisation des choses avant le braquage, puis l'organisation des choses après le braquage, deux procès différents qui permettent. Après les braquages.
Troisième.
Ouais, donc après, deux procès encore différents pour les braquages. Ce qui permet d'augmenter les peines, parce que ce n'est pas les jurés qui vont nous coller 30 ans. Et on a tué personne, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, bon, c'est bon. Donc les jurés ne vont pas nous coller 30 ans sur cette affaire, mais le procureur a décidé, lui, de nous coller 30 ans. Donc il saucissonne la peine et les peines s'additionnent. Et ensuite, elles sont confondues que si la justice le veut bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui actuellement sont condamnés à faire 30 ans, alors qu'aucun juré ne les a condamnés à 30 ans. Parfois, ils ont une peine maximum de 12 ans, mais encore 8 ans pour association là, et puis encore 6 ans pour ça. Et on arrive au quantum de plus de 30 ans. Et le procureur réduit le quantum de la peine au maximum à 30 ans. Donc, le mec, il a effectivement 30 ans à faire, mais il n'a jamais été condamné à 30 ans. Et c'est la plupart des gens qui sont condamnés actuellement à 30 ans. Plusieurs centaines de personnes. Ce ne sont pas des grands criminels qui sont condamnés à 30 ans. La plupart des grands criminels sont condamnés à la perpète et ensuite la pénitentiaire gère quand est-ce qu'ils vont les sortir. Ça peut être 15 ans, mais ça peut être 28 ans, 32 ans, 40 ans s'ils veulent. Il y a des cas. S'ils ne veulent pas les sortir, ils ne les sortent pas. Et ils les sortent que quand ils ont décidé qu'il est bien désistant. C'est un bon désistant, celui-là on peut le sortir. Mais un rebelle, il ne sort pas à un perpète. C'est très dur. Il faut faire acte d'allégeance. On le demande. Je vais vous donner un exemple de rebelle qui ne peut pas sortir, c'est Georges Ibrahim Abdallah. C'est un rebelle pour la pénitentiaire. Mais simplement, c'est un mec qui a des idées et qui ne veut pas renoncer à ses idées simplement pour sa libération. C'est un politique, on ne peut pas lui demander de se renier. C'est aberrant. Pourtant, c'est ce que demande l'État. Elle lui demande, pour sortir, faites une lettre reconnaissant votre culpabilité. C'est ce qu'on demande à presque tous les détenus. Il faut souvent faire une lettre de reconnaître sa culpabilité si jamais on avait nié. Et ensuite, reconnaissez que vous êtes trompé. C'est plus de la réinsertion, ça.
C'est l'anéantissement.
C'est de la lobotimisation. On retourne le cerveau des gens jusqu'à qu'ils acceptent d'être le mouton qu'on demande. Donc, d'où l'utilité de ces QHS. Tous ceux qui ne demanderont pas, qui ne le feront pas, iront dans ces quartiers, jusqu'à qu'ils cèdent. Mais jusqu'où après, alors là, c'est le côté humanisme des intervenants dans la prison, jusqu'où les humanistes sont prêts à laisser faire ce qui se passera dans les prisons. Jusqu'où, à un moment, la démocratie va dire, bon, on ne peut pas se permettre des tortures. Parce que l'isolement est déjà déclaré comme une torture par l'Union européenne. C'est déjà considéré comme une torture par tous les psychologues, tous les psychiatres. Mais bon, la France a mis des normes. Il y a 9 mètres carrés.
Très, très large, très très large, les normes, ouais.
Ouais, il y a des normes qui font que, bon, bah, c'est pas vraiment de la torture, quoi. C'est pas vraiment d'isolement. Je sais pas comment, mais trouve des normes. Du moment qu'ils sont dans les normes européennes, on peut tout faire.
Est-ce qu'on fait toujours des fouilles intégrales? J'ai vu que depuis 2009, il y a eu vraiment
le portique, le soi-disant que tu pouvais plus.
Puis en 2012, ouais. 2014, quand on applique ce qu'a dit la Commission européenne, mais ça se fait toujours, j'imagine, en QI, bien sûr, mais même
en quartier systématiquement.
Est-ce que si les gens ne connaissent pas, savoir ce que c'est et combien de fois, et pourquoi alors, c'est si difficile
avant, pour les détenus? Avant, il y avait la fouille systématiquement à poil, plus ou moins humiliante. C'est-à-dire que elle est très humiliante quand le maton lui dit « Tu te mets à poil, ensuite tu te baisses et tu tousses pour voir s'il n'y a pas un truc qui va sortir de ton trou du cul. » Donc la plupart des rebelles, ils disent « Non, on finit sur mitard. » Ce qui fait qu'il y a des sortes de conventions. Alors, mais la fouille à poil, elle était presque obligatoire. Moi, je me suis mis parfois à poil 4 fois, 5 fois par jour. Dans les quartiers, par exemple, quand c'était une période où c'était bien hard, je me mettais à poil avant de sortir de la cellule, avant de rentrer dans la douche, ensuite je prenais ma douche, je restais à poil, le maton me disait « rhabillez-vous », je sortais de la douche, j'arrivais devant la cellule, bon ça, tout ça c'est dans le même couloir, hein. Il y a 3 cellules de différence, hein. et en plus je suis entouré de 5 matons, il y a 4 matons et un gradé avec une bombe lacrymogène au cas où, donc je peux rien rentrer entre temps. Entre la douche, au moment où il m'a vu à poil et là, ils m'ont refait encore la fouille. Ça, c'est la pression carcérale. Donc la fouille, elle ne sert pas à trouver quelque chose, elle sert à dire « ton corps m'appartient ». Il n'y a pas un recoin de ton corps qui va dire qu'il ne sait pas à moi, je veux tout voir. C'est le principe de la fouille. Donc, il a été remis en question et l'Union européenne a dit « non, elle ne doit pas être systématique, elle doit être motivée ». Et c'est ce qui fait chier les matons, parce que ils ne peuvent plus le faire systématiquement comme ils veulent. Pour les DPS, pour les cartes d'isolement, ça change rien, c'est toujours le même principe. Mais le retour de parloir fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire pour systématiquement, ça prenait du temps, mais il prenait chaque détenu, il y avait des cabinets, tout le monde passait à la fouille un par un. Donc ça, c'est été remis en cause, mais ça reste encore en vigueur au flanc. Il suffit qu'un maton dise « moi je pense que lui, il a fait rentrer du shit », il passera la fouille. Donc c'est pas une interdiction de fouille, c'est le fait que ça ne doit pas être systématiquement. Ouais, ça ne doit pas être utilisé systématiquement, chaque retour de parloir, chaque retour de ceci ou de cela. Donc ça gêne les matons. De la même manière que ça avait gêné les juges quand il y avait la peine planchée. Les juges, ils sont élevés aussi contre la peine planchée. Non pas parce qu'elle était lourde et qu'elle était plus pénalisante pour les condamnés, mais parce que c'est pas eux qui en décidaient. Ils considéraient que c'est au juge de décider de la peine planchée, de la peine qu'on va mettre. C'est pas à l'administration de décider s'il doit y avoir une peine planchée ou plafond. Et c'est contre ça qu'ils sont élevés. Et c'est la seule chose que Taubira a fait effectivement changer. Elle a enlevé la peine planchée. Pour le reste, il y a toujours des prisons pour enfants. La rétention de sûreté existe toujours.
Elle a quand même juste donné les moyens d'élargir et de mettre la prison hors les murs.
Hors les murs, en plus,
c'est ce que nous a fait Taubira. D'ailleurs, c'est super. Parce que comme ça, du coup, les assignations à domicile, on a vu ce que ça pouvait donner en temps d'état d'urgence. Hein, ça se systématise. Et puis, on voit que ça systématise à un peu tout le monde et n'importe qui. Donc voilà, c'est ça qu'elle a aussi vachement fait. Et malheureusement, je pense que dans les années à venir, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir être très vigilant, c'est que non seulement depuis que cette loi est passée, il n'y a pas moins de prisonniers, hein, soi-disant, un grand laxiste, tous les délinquants devaient s'égayer dehors. Mais par contre, il y a de plus en plus de gens qui sont sous bracelet, qui sont sous assignation à domicile, etc. Donc il va y avoir de plus en plus de gens en prison et de plus en plus de gens enfermés dehors. En plus, franchement, on a l'impression que c'est rien du tout d'aller pointer 3 ou 4 fois par jour ou de rester enfermé toute la soirée, de pas pouvoir aller voir ses amis, pas pouvoir avoir de vie. C'est rien, franchement, on est chez soi, c'est tranquille quand même. Mais donc, du coup, ça va permettre de généraliser ce type de sanctions et c'est quelque chose qui peut être très très grave parce qu'en plus, on peut vraiment le filer à n'importe qui, quoi. Moindre incartade et hop, petite assignation, petit bracelet, petite obligation, etc., etc. Et là, il y a vraiment un problème. Ouais.
Au point où on en est du débat, moi, j'aimerais dire 2 choses, si vous en êtes d'accord.
Mais tu veux pas le dire dans le micro ?
Ouais, ça me dérange.
Avance-toi. Parce que là, sans ça, on t'a pas. Ah, il est là.
Super.
Ouais, le faire tourner. Parce que c'est bête, parce que sans ça, on t'entend pas. À la radio, pour les auditeurs, s'il y en a. Salut.
depuis 50 ans, le nombre des crimes et des délits est en baisse significative. Pas, c'est pas un petit peu, c'est significatif. Même des mecs comme Boer, hein, le criminologue accrédité à droite et à gauche, là,
qui a créé son propre diplôme,
qui crée son propre système et qui vit avec ça, le dit. Même Tournier, qui écrit des bouquins et qui est assujetti à la pénite et qui tire ses
chiffres de la pénite. Pierre Victor.
Bon, qui est un sale type en plus.
Ah ouais, vraiment.
Je me le suis fait il y a 3 ans quand il venait présenter son livre. Est obligé de dire aussi que oui, c'est vrai, les crimes et les délits baissent depuis 50 ans. Alors évidemment, la presse, les médias, un féodé, les laquais du pouvoir font des comparaisons de 6 mois en 6 mois ou d'un an en un an. Mais là, ça joue pas. Parce que en plus, comme il y a eu des nouveaux délits, qu'il y a plein de trucs nouveaux qui sont sortis, on n'est pas du tout à calcul constant. À calcul constant, les crimes et les délits baissent et la France est le pays d'Europe où on tue le moins. Et paradoxalement, depuis 50 ans, le nombre des prisonniers a triplé. On est passé de 20 000 à 69 000 et des poussières, uniquement ceux qui sont enfermés, parce que si on compte les bracelets électroniques, si on compte les
contraintes pénales,
avec mise à l'épreuve, etc., on arrive effectivement à 90 000. Donc ça, c'est une question à se poser. Comment se fait-il, effectivement, que lorsque les crimes et les délits baissent, la population augmente proportionnellement, mais inversement proportionnellement. Donc ça, c'est une façon de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que ce système, qu'est-ce que c'est que cet État, et à quoi sert la prison. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le danger qu'on a dans ces débats, ça serait de faire croire que si la prison devenait un peu plus humaine, un peu plus sympa, si on reprenait ce que disait Giscard d'Estaing en 74, 2 ans avant que Pierre Flynn fasse les QHS, que la prison, c'est la privation de liberté et rien d'autre. Alors à ce moment-là, la prison, non, la prison ne peut pas être acceptable. On ne peut pas fonctionner avec une idée qu'enfermer les gens, c'est tolérable. Même pour 3 mois, même pour 15 jours, ce n'est pas inadmissible. Admissible. C'est bien pour ça que je crois qu'il faut que ça soit axé dans ces débats. Les prisons doivent être abolies, doivent être brûlées, doivent être fermées, et il faut arrêter. Simplement, on a un gros problème. Il y a effectivement des gens qui ont conscience de ça, pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que en vérité, on a beau savoir ce que nous a dit Foucault, à savoir que la prison est une arme d'État. On a beau savoir ce que nous a dit Catherine Becker, que philosophiquement, la punition, c'est pas un truc défendable et fiable pour quelqu'un qui veut prendre conscience. En vérité, 99% des gens ont le gène du talion dans le sang et ils veulent de la prison parce qu'ils veulent de la vengeance. Et si vous réfléchissez ici, vous tous là, pourtant, bon, ça vous intéresse, vous êtes sensibles au problème, et bien quelque part dans votre tête, il y a un moment donné, vous vous êtes dit au moins une fois, ah ouais, putain, celui-là, faut le mettre en tôle, quoi. Il y a quelque chose qui est ancré dans les gens, qui fait que pourquoi on n'arrive pas à se débarrasser de la prison ? Parce que la population veut la prison. Alors après, on peut parler des médias qui, effectivement, rajoutent, les politiques qui ont tout raté, alors ils jouent sur la sécurité, et que, comme le disait notre ami, ça va être de pire en pire, il y a eu la loi sur renseignement, on est dans l'état d'urgence, bientôt les lois vont être votées pour mettre l'état d'urgence en permanence dans la Constitution, la déchéance de personnalité, c'est un attrape-boulot, tout le monde se branche là-dessus, mais en vérité, c'est pas ça qui va y avoir un, ça va être les perquisitions, on va se passer des juges, alors peut-être que les juges vont broncher un petit peu, mais enfin bon, comme c'est pouvoir contre pouvoir et que nous là-dedans, de toute façon, on sera toujours pommards, je crois qu'il faut faire gaffe. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prisons, c'est de pire en pire. Moi, je suis sorti il y a 2 ans, et bien depuis 2 ans, les potes encore que j'ai à Villefranche avec qui j'écris, c'est absolument insupportable. C'est absolument insupportable. Voilà. Donc, attention, dans ces débats, ne laissons pas croire que si la prison était un peu plus humaine, un enfermement ne peut pas être humain. Donc, tous les débats qu'on doit avoir sur les prisons ne peuvent avoir qu'une seule visée, la disparition des tôles.
Oui, mais comme c'est pas pour demain, on va quand même commencer par quelque chose.
Je suis assez d'accord. Moi,
moi aussi, je suis d'accord. Mais ceci dit, après, il faut voir comment on fait, quoi.
Si je devais choisir entre 10 ans enfermé au RITS avec les conditions du RITS, le service du RITS, plutôt que 5 ans à Fresnes, je prends 5 ans à Fresnes. 5 ans mitard de Fresnes, même s'il le faut, avec des coups de fouet, si c'est 3 ans. Parce que l'enfermement, c'est le temps qu'on passe à ne rien faire. Et il n'est pas productif. Moi, je n'ai pas les mêmes réponses pour que la prison est inhumaine. Ce n'est pas ma réponse pour laquelle elle devrait disparaître. Je pense qu'elle ne devrait pas exister parce que c'est une mauvaise réponse, tout simplement, pour la société. C'est une réponse contre-productive. Elle n'est pas là pour réinsérer. Elle crée des déchets, au mieux, ou des fauves de temps en temps. Donc, on parle de récidivistes, notamment dans les mœurs, mais bon, la prison, en ce qui concerne la sexualité, c'est pas là que vous apprendre le mieux. C'est pour faire des pervers et des refoulés, c'est ce qu'il y a de mieux, quand même. Donc, la prison ne remplit pas un rôle de réinsertion, elle remplit un rôle de punition, effectivement, où l'État décide à quel moment il va s'immiscer. Et je remarque que l'État s'immisce dans tous les jugements, alors même qu'il y a des jugements qui ne devraient pas le regarder. Quand il y a deux personnes qui s'engueulent, ou qui sont en conflit, peut-être que la justice pourrait se faire un tiers, mais je vois pas en quoi l'État est lésé là-dedans. Si tu t'engueules avec ton voisin, je vois pas pourquoi le procureur dit le trouble à l'ordre public a été grave. Non, l'État s'immisce en tout. Et je pense que aux actes de délinquance ou de déviance dans une société, tout le monde aimerait une société calme et apaisée, mais c'est bon, c'est pas possible, il y en aura toujours. La société doit effectivement apporter une réponse. Mais la réponse de la prison, c'est une mauvaise réponse qui crée une mauvaise ambiance. Donc c'est surtout ça qu'il faudrait chercher. Quelle réponse l'État doit apporter aux actes de délinquance?
Mais je pense qu'on ne peut pas se poser ces questions-là sans se poser la question de la société qui génère la prison et qui génère la délinquance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper la prison du reste du système, du monde. Et quand on répond par la prison à un acte de délinquance, au lieu de réfléchir qu'est-ce qui a généré cet acte de délinquance, on est à côté de la... Non, mais justement, mais parce que souvent dans les débats aussi, on a tendance à séparer tout. Alors il y a d'un côté les sans-papiers, de l'autre côté les prisons, côté la précarité, machin. Non, c'est un tout. Et c'est ce système-là qui génère la prison, qui génère la délinquance. La plupart des gens qui sont aujourd'hui en prison sont des gens qui sont de conditions pauvres, pour la plupart. On va passer les quelques routiers, délits routiers, machin, bon, enfin, des trucs comme ça qui peuvent arriver à tout le monde, on va dire. Mais c'est souvent des pauvres. Donc, où on prend le problème un petit peu à la base, c'est Foucault, bien sûr, pas que lui, il y en a plein d'autres. Et on se pose la question, justement, pour essayer de voir comment apporter d'autres réponses. Mais aujourd'hui, on est complètement dans un sens inverse. Aujourd'hui, on psychiatrise. Aujourd'hui, on individualise. On ne politise pas. Je veux dire, il n'y a pas un moment où on s'interroge sur les causes de la délinquance. Comment ça, il n'y a pas de travail? Il y a des logements pourris, des loyers exorbitants, d'une éducation de merde qui met au banc toute une partie de la population, une non-accession à la culture, on ne nous demande jamais notre avis nulle part, une dépolitisation mais partout, et après on s'étonne. On s'étonne que des mômes partent à la dérive et fassent ce qu'ils peuvent, quoi, pour arriver à s'acheter deux, trois trucs pour ressembler à l'image qu'on a. On est... ou partir au djihad, ou peu importe, il y a après plein de délires possibles. Mais bon, on est dans cette situation-là, donc où on en revient un petit peu à... Il va falloir qu'ils lâchent leur thune un petit peu, là, ceux qui en ont plein, là, et qui s'en mettent toujours, toujours, toujours dans les fouilles, et qui en ont jamais assez, pendant que les autres, ils en ont pas du tout pour vivre.
On te dit expliquer, c'est excuser.
Alors, ouais. Comprendre. C'est même pas expliquer, c'est comprendre. Tu t'essayes de comprendre, de faire marcher ton cerveau pour voir. Mais comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu peux plus. Parce qu'à partir où tu comprends, ça veut dire que t'excuses. Mais où il a vu jouer ça, lui, là? C'est incroyable. Et donc, on voit de plus en plus les richesses maintenues dans de moins en moins de mains. On voit des gens qui crèvent de faim, qui vivent dans des bidonvilles, dans des camps. Par millions, et on s'étonne. Il y a la guerre partout. Et on s'étonne que les gens... il y a des problèmes. Ah ouais, il y a des problèmes. Donc du coup, là, c'est pour ça que je voulais pas dissocier, si tu veux, la question de la prison du reste de... Non, mais pas du tout. Je dis pas du tout par rapport à ce que tu disais. Juste par rapport à la discussion. C'est souvent qu'on oublie cet aspect-là et on dépolitise. On dépolitise et on en vient à un problème individuel. Oui, alors tu comprends, il avait des problèmes, tu vois. Non, juste, il avait pas... Tu vois, et oui, effectivement, la misère, ça n'engendre pas forcément des rapports mortels au niveau familial. familiaux, au niveau tout ça, c'est sûr, c'est en général c'est pas la grosse éclate. Mais il y a pas que ça quoi. Il y a aussi donner la possibilité à chacun d'accéder à ce dont il a besoin quoi, ne serait pour vivre.
Alors l'État parfois donne un petit peu aux pauvres effectivement à travers le RSA, mais aussi à travers un truc assez ambigu, c'est l'économie souterraine qui est la CAM. Alors, de temps en temps, on a des annonces. Ils ont arrêté, ils ont trouvé un kilo de, une tonne de coke, des trucs assez spectaculaires. Mais bon, faut savoir que c'est à peine 10% de ce qui rentre vraiment. Il n'y a pas une véritable lutte contre la CAM, parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui va faire une vraie lutte contre la CAM. Il y a trop de demandes. Déjà, il faut pouvoir fournir.
Pacifique, correct.
Et puis en plus,
même, hein.
Ça crée une économie souterraine dans des quartiers pauvres. Où s'il n'y avait pas cet argent, eh ben, ça exploserait un peu plus, bien plus souvent. Mmh. Et ces gens qui vivent de cette économie souterraine deviendraient des délinquants plus violents, plus visibles sur la voie publique. La CAM, ça génère 20 à 30% de la délinquance en France, de ce qui est en prison. Donc, on réprime la CAM d'un côté, ça fait des détenus, mais en même temps, de l'autre côté, on laisse un peu passer, parce que on peut pas dire qu'on ait une vraie lutte, bien sûr que c'est spectaculaire, mais quand...
Comme en prison, oui, tout à fait,
voilà,
ouais,
voilà.
Ça pacifie,
donc,
ouais, ça,
bah. Il laisse passer, ouais. c'est un peu ambigu. Si l'État voulait réduire 20% de délinquance, eh ben, il légalise le cannabis, il n'y a plus de dealers. Si c'est le bureau de tabac qui le vend, en plus il prend sa thune. Seulement, tous ces dealers vont se transformer en voleurs. Et ça, il n'y a pas un gouvernement qui va oser le faire. Parce que qui c'est qui va se prendre la vague de délinquance qui va arriver derrière? Forcément, les gens ils sont habitués au Nike, ils sont habitués au portable. Donc ils vont vouloir continuer. C'est une pauvreté qui veut accéder aux mêmes richesses que les autres.
C'est parce que c'est le seul modèle qui est véhiculé.
On ne leur donne pas les moyens.
Bah ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Non, vas-y, mais prends le micro, parce que ça. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'après il manque la question. Bah oui. Ça fait bizarre.
J'ai un peu lu des trucs sur la prison. Comment faire justement par rapport à tout. Toutes les privations de dignité, toutes les humiliations, les brimades permanentes, pour pas rentrer dans la haine, être bouffé par la haine, parce que où est-ce que cette haine justement, elle est positive, ou est-ce que tu as vu des gens qui étaient qui devenaient qui se faisaient bouffer par ça, ou est-ce au contraire on peut en faire quelque chose, et comment on s'en débarrasse après quand on sort, ou est-ce qu'on la garde?
Alors je crois que c'est très individuel, hein, parce que bon, forcément j'ai rencontré beaucoup de rebelles dans les quartiers. Et j'ai aussi beaucoup d'amis aussi à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Malheureusement, beaucoup, beaucoup d'entre eux sont morts, de morts violentes, et parfois par des suicides, comme Thierry. Donc c'est très, très individuel, les réactions. Moi, j'ai eu les deux. Pendant très longtemps, je me rebellais par le ventre, c'est-à-dire la haine qui me poussait. Je dois dire qu'après une sixième, ça m'a beaucoup calmé. J'ai pas arrêté de continuer à foutre la merde, hein. J'ai continué à brûler des prisons, ça me dérangeait pas. Mais avec beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de zen. Peut-être même juste pour le fun. Donc, il y a eu un passage comme ça. Un moment où je me sentais, moi, enfermé, et le rapport à la haine existait. Mais au moment où moi, j'ai considéré que j'ai dépassé leurs murs, j'ai dépassé leurs limites, parce que les miens, ils n'ont pas trouvé, alors que les leurs, je les ai vite trouvés, hein. Je m'énerve un peu, je vois plus que leurs talons. Donc, je me suis dit à un moment, ouais, leurs limites, je les ai cassées. J'étais beaucoup plus zen. J'ai rencontré d'autres rebelles qui gèrent les choses de façon différente. Il y en a qui font du yoga. Il y en a, c'est des révoltés permanents, en rapport de force permanent. Donc, eux, ils ont un retour. Moi, ce que je faisais pas, je n'ai pas de rapport de force physique avec les matons. Je monte des embrouilles. À la finale, tout brûle, mais je ne vais pas me battre contre 5 ou 6 matons. De toute façon, je n'ai pas les moyens. Mais il y en a qui pensent avoir les moyens, effectivement, qui sont assez forts et qui ont des rapports physiques avec. Alors, ceux-là, on les traite de façon différente. S'il est soutenu, ça va, on le mettra en psychiatrie, mais s'il est pas soutenu, il part en psychiatrie. Et quand il part en psychiatrie, il revient 6 mois après, mais il est complètement changé. Complètement changé. Et j'ai vu beaucoup de gens partir comme ça, parce qu'on psychiatrise très vite les rebelles. S'ils sont pas soutenus, s'ils ont pas des avocats derrière, s'il n'y a pas une famille qui leur dit « non, il est pas fou », Le détenu dont je parlais là, que ça fait 20 ans qu'il est dedans, pour 3 ans au départ, lui aussi on essaie souvent de le psychiatriser. Seulement les psychiatres ils disent non, mais il est pas fou. Il est juste. Il est sensible à comment ils disent, La justice. Sensible à la justice. Bah ouais, mais si c'est Solzhenitsyn, on l'applaudirait. Mais bon, lui, il s'appelle Ben Boula et ça passe pas bien, ça. Donc, c'est un détenu rebelle qu'on jette dans les quartiers, qu'on psychiatrise, qui passe d'un HP à la prison, simplement parce qu'il veut rester debout, quoi. Vous voyez, donc, les réactions, elles sont différentes. Lui, il se bat comme ça. Mais il y en a d'autres. Moi, j'en ai connu, il y en a un, il aurait fait 60 recours en justice. Il a gagné 52 fois. C'était. Comment il se souvient ? Je me souviens plus de son nom. Enfin, peu importe. Il les faisait chier, il les emmerdait pour n'importe quoi. Un maton avait raté quelque chose et il faisait une plainte qui montait au tribunal administratif. Il connaissait bien le truc. Il les faisait chier comme ça. Donc, les rebelles, en fait, j'en connais pas de pareils. Parce que forcément, ce sont des personnalités assez fortes, donc qui s'affirment encore plus. Et elles sont toutes différentes, ces personnalités. Et les dégâts ou les réactions, elles sont toutes aussi différentes. Mais après, sur des très très longues peines, j'ai vu des gens quand même très rebelles au départ, et puis s'étioler, parce que les peines sont longues, très très longues. Moi, c'est un peu différent. J'ai fait une très longue peine, mais entrecoupée, puisque je sortais et je récidivais. donc c'est entrecoupé, même si j'ai fait des 12 ans pleins, c'est pas 28 ans pleins. Vous voyez, la peine, elle est complètement différente. Et ces gens qui ont fait ces grosses peines, les séquelles, elles sont souvent très très sévères. Je vois beaucoup de suicides, ou de gens qui finissent chez Emmaüs. Ça, c'est Emmaüs qui récupère tout le monde. Tu fais une thèse sur... Je vois que tu prends des notes. Si quelqu'un a une question sur les... Ou est-ce qu'on a fait le tour un peu de...
Ah, vas-y.
Ouais, j'aimerais avoir votre opinion sur... Parmi les nouveautés qui sont arrivées, j'ai l'impression qu'il va y avoir une individualisation de plus en plus grande, mais ça vous en avez déjà parlé, de la façon dont on va traiter les gens en détention. Et j'ai l'impression qu'il y a une individualisation, on va dire, de la répression, donc du côté bâton. Et il semblerait qu'il y ait aussi une individualisation du côté carotte, c'est-à-dire les petits avantages qui avant pouvaient être des choses gagnées collectivement ou qui existaient collectivement pour des tas de raisons, ben, vont être distribués au compte-gouttes et en fonction du comportement des gens. Et par exemple, dans Le Monde, il y a quelques jours, ils ont expliqué qu'ils allaient faire des prisons avec les cellules ouvertes. Enfin, avant, les cellules étaient ouvertes, avant, si je me plante, pardon, retour à il y a 15 ans en arrière. Sauf que c'est le détenu qui a sa clé. Mmh. Et donc, du coup, il va pouvoir ouvrir sa porte de cellule, c'est super. Mmh. Mais la clé, ce qui va déterminer s'il a la clé ou pas, ça va être son comportement. Mmh. Donc, une fois qu'on a dit ça, tout est dit. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, quoi.
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure.
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure.
Les niveaux d'enfermement qui sont à l'intérieur, mais qui sont aussi à l'extérieur. Et il y a 5 niveaux intérieurs, comme Nadia vous l'a expliqué, si on est gentil, pas gentil ou très méchant. Et à l'extérieur, c'est un petit peu les mêmes pour le suivi de la peine. C'est-à-dire qu'il y a un suivi très proche, en sortie de peine, c'est-à-dire pas en fin de peine, parce qu'on ne sort plus en fin de peine. Quoi qu'il arrive, de toute façon, même à la fin, le détenu, s'il n'a pas d'aménagement de peine, il doit quand même les remises de peine qu'on lui a données. Donc de toute façon, il sera encore contrôlé après sa sortie. Et donc dans ce contrôle après la sortie, il y a encore 5 niveaux de surveillance et de contrôle. Au fur et à mesure que ça va mieux, on lâche de plus en plus. C'est-à-dire, soit il y a un contrôle par semaine, c'est le JAP qui dit avec obligation de se soigner, obligation de faire ceci ou interdiction de cela. Et au fur et à mesure, le niveau baisse. Le premier niveau, c'est le plus haut, c'est la semi-liberté. Ensuite, il y a le bracelet électronique. Ensuite, il y a les horaires obligatoires. Et puis, peu à peu, il y a un entretien avec le juge tous les mois, parce que ça se passe bien, la conditionnelle. Donc, jusqu'au bout, et pendant très longtemps après la peine, ce qu'on appelait avant la relègue, aujourd'hui, on l'appelait, c'est légal, c'est l'aménagement de peine, mais il dure très longtemps. Il dure très longtemps.